Bienvenue sur les chemins du vendredi où chaque semaine nous partons à la rencontre de ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. La philosophie est-elle une vocation ou une profession? Comment viennent les idées? Comment se fabrique un concept? À quoi ressemble l'atelier du philosophe? Et quel rôle le philosophe doit-il jouer dans la cité? Aujourd'hui, mon invité est philosophe et psychanalyste, professeur titulaire de la chaire Humanité et Santé au Conservatoire National des Arts et Métiers et titulaire de la chaire de philosophie à l'hôpital au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. Docteur en philosophie avec une thèse sur l'imagination, enseignante à l'Université américaine de Paris, à l'IEP de Paris ou à l'École Polytechnique, plus jeune membre du comité consultatif d'éthique, membre fondateur du réseau européen des femmes philosophes de l'UNESCO, vice-présidente de l'ONG Europa Nova, mais aussi auteur de plusieurs ouvrages sur le soin, les pathologies de la démocratie, le courage ou l'écologie. Et encore, je n'ai pas tout dit, mon invitée s'appelle Cynthia Fleury et elle ne semble jamais perdre son souffle, tout comme un certain Chet Baker qu'elle affectionne tout particulièrement. Cynthia Fleury.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Votre pratique de la philosophie a-t-elle quelque chose de la musique de Chet Baker ou plus précisément de son souffle?
C'est une jolie question, ça serait merveilleux. Écoutez, je ne saurais pas dire, mais ce qui est certain, c'est que la trompette est mon instrument préféré, que quand même ça a à voir avec le souffle, que ça a à voir avec la trace de l'homme dans ce souffle. Ce n'est pas simplement du vent, on sent véritablement, je trouve, dans le souffle d'une trompette, je sais pas, une âme, on sent l'implication de l'humain. Donc c'est vrai que je suis très très sensible à cette musique, et c'est une musique qui est capable de passer, donc c'est très c'est proche de ce que peut dire un Jean Kelevich, c'est-à-dire c'est une musique capable d'être d'une légèreté absolue, à peine imperceptible, et en même temps terriblement mélancolique sur certains endroits aussi, parce que quand on laisse le souffle comme ça traîner comme ça, il y a quelque chose de lourd et en même temps assez utérin. Donc voilà, c'est peut-être, après tout, ça serait merveilleux, mais on n'est jamais la personne la plus douée pour parler de son travail, hélas.
C'est pourtant ce qu'on va faire dans les minutes qui viennent, Cynthia Fleury. Je vous ai présenté comme philosophe, est-ce que ce terme vous convient?
Oui, il me convient dans la mesure, si vous voulez, où je le dis souvent, c'est quelque chose qu'on dira ou pas après, en l'occurrence, ma mort. Et je ne veux pas rentrer dans ces débats, parce que je pense que chacun sait, si vous voulez, la terminologie et parfois les raccourcis qui sont ceux d'un langage commun. Voilà, historien, philosophe, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tiens, il a construit sa vie autour de ça. Et non pas, on n'est pas dans un système de, le grand philosophe, etc., etc. Oui, peut-être, mais je vous dis, ça se dira ou pas dans X années, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Est-ce que moi, c'est un qualificatif qui m'importe dans 30 ans, dans 40 ans? Oui.
Ou même qui vous définit aujourd'hui, qui est le centre de vos
activités. Voilà, si vous voulez, c'est quand même la chose la plus juste quand on veut rapidement me positionner sur une cartographie sociale en disant, alors maintenant on pourrait dire elle fait de la philosophie si on veut pas. Moi je me suis longtemps présentée comme un enseignant-chercheur.
Ce qui serait une manière de minimiser, de pas s'octroyer une place de philosophe.
Voilà, ce qui est une manière de calmer les uns et les autres sur ces questions-là. Parce que c'est vrai que ce sont des questions qui m'importent peu. Ça ne me parle pas et moi-même je ne me ressens pas, si vous voulez, dans une position de surplomb philosophique. D'abord parce que je n'ai pas l'âge pour avoir ça. Est-ce que dans 50 ans, encore une fois, dans un siècle, on lira encore mon travail? Je n'en sais strictement rien. Bien évidemment que... Alors là, en revanche, j'aimerais, mais pas pour des histoires d'ailleurs narcissiques, parce que c'est... pour le coup, je m'en fiche assez, mais tout simplement pour des histoires de sens, pour des histoires de se dire, bah tiens, ce travail qui a été fait, il a une petite valeur et il pourra être récupéré, encore une fois, par d'autres. C'est un lien qu'on tisse avec les autres, ce travail, cette œuvre, au sens de vraiment artisanat ensemble. Et moi, quand j'ai commencé à écrire, mon seul but, jeune comme aujourd'hui, c'était quand même de constituer une œuvre. Et donc, je fais ce travail-là.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire de constituer une œuvre, même artisanale, en philosophie? Comment elle se construit, cette œuvre, même de manière très matérielle?
De manière très matérielle, alors il y a mille chemins, parce que si vous voulez, l'œuvre, même si on fait une grande séparation entre le moi et l'œuvre, il n'empêche que le viatique pour aller vers l'œuvre s'appelle le moi, tout de même, le moi devenant soi, si vous voulez. Donc moi, mon chemin, il est un chemin depuis un âge jeune, en l'occurrence, où le terme de philosophie n'est pas arrivé, parce que quand j'avais 13-14 ans, en l'occurrence, puisque c'est à partir de ce moment-là que les choses se sont décidées, je ne savais pas que ça s'appelait la philosophie, si vous voulez. Pour moi, c'était du langage, c'était de l'écriture, c'était des idées, c'était des arguments, c'était des concepts. C'était une manière de transformer le monde par la capacité, à un moment donné, de nommer les choses, qui est très camusien. Mais moi, j'avais cette conscience-là, et en même temps, cette conscience de quelque chose d'impuissant, hein, d'une certaine manière, parce que les mots ne changent rien aussi. Mais en même temps, les mots changent les choses. En tout cas, je défends cette idée que l'être humain est un être parlant, un homo loquens, et que ça compte, si vous voulez. Donc, résultat, c'est parti par tout simplement une discipline de l'écriture que je tiens toujours. Peut-être un peu, quand j'étais plus jeune, sans doute par peur de perdre. Donc c'est vrai, tous les jours, écrire un nombre de signes. Donc ça, c'est ce que je fais depuis...
Vous vous y tenez tous les jours, vous écrivez tant de signes.
Oui, ce qui paraît un peu débile, mais parce que...
parce que c'est pas toujours bon, parce que c'est pas toujours
évidemment.
Le bon moment.
Mais voilà, mais ça, j'avoue que ma façon de faire est une façon, si vous voulez, de me saisir du qualitatif tout de même par une obligation quantitative. Et donc ça, c'est petit en même temps, mais c'est tellement dur de savoir si ce qu'on écrit est juste que, en tout cas, au moment où moi j'écris, je ne me pose pas cette question. Cette question arrive beaucoup plus tard. Et donc, je m'oblige à produire un nombre de signes par jour, systématiquement. Voilà. Et je le fais depuis maintenant quand même. J'ai commencé à avoir cette technique-là, je devais être en cagne. Donc 18 ans. Voilà, c'est un côté un peu commando, un peu mécanique,
un peu laborieux. On en revient
très laborieux.
Au côté.
Alors moi je suis très laborieuse,
très matérielle.
Hein, voilà, moi je suis très laborieuse, je suis très produisant une matière, je produis un objet brut et à partir de ce moment-là, ensuite, je vais tailler dedans, reprendre. J'ai l'habitude de dire que je produis des forêts. C'est d'ailleurs compliqué. Là par exemple, je vais sortir mon livre ça fait maintenant plusieurs années, parce que moi je suis assez lente, hein, parce qu'on est là...
Oui, vous avez déjà quand même écrit une dizaine de livres, sans compter les ouvrages collectifs,
voilà.
Les conférences, vos différents postes, vos différents enseignements.
Mais en fait, si vous regardez, un livre qui renvoie à ce travail commun, etc., qui ne sont pas les directions d'ouvrage, c'est tous les 5 ans. Donc c'est pas du tout un rythme aujourd'hui très apprécié ni des éditeurs ni du monde commun, hein. Bon, mais en tout cas c'est comme ça. Donc moi je laboure comme ça pendant un certain nombre de temps, je produis cette espèce de forêt, et parfois, ce qui m'est arrivé d'ailleurs récemment encore, je n'arrive plus à entrer dans la forêt. Donc, je vais utiliser des astuces, je vais utiliser éventuellement, bien sûr, le regard de l'éditeur, en lui disant, là, il
faut... Aide-moi.
Voilà, aide-moi, parce que je produis toujours comme ça. Et ensuite, je vais aller faire travailler plutôt une itinérance, créer un chemin didactique, alors que d'autres chemins pourraient être créés. Parce que une écriture, c'est heureusement gros. C'est gros de quantité de choses. Donc, on choisit un axe pour un moment plus pédagogique, de transmission. Et heureusement, le lecteur ensuite fait lui-même son chemin et réouvre d'une certaine manière, de façon beaucoup plus forte, le livre. Donc, moi, j'ai une dialectique assez forte comme ça avec les lecteurs, et j'ai moi-même, quand je suis lecteur, j'ai toujours fonctionné comme ça avec les livres. Je passe non seulement ma vie à lire, mais à relire les livres. Donc, ça se fait comme ça. Et ensuite, il s'avère que je vois, hein, je reprenais encore mon prochain livre. Et j'avais peut-être la moitié de mes concepts qui sont ceux de métaphysique, donc ça veut dire il y a 20 ans. Donc, l'air de rien, j'écris quand même le même livre depuis un certain nombre d'années.
Cynthia Fleury, vous avez parlé de votre CAGN, le moment, donc c'est la deuxième année en classe préparatoire, le moment où vous avez mis en place ce dispositif d'écriture. En CAGN, il me semble que vous avez aussi rencontré cette personne.
Ma vocation au départ, c'était les lettres. J'aimais les langues, j'aimais les lettres. La littérature, et avant de rencontrer mes premiers professeurs de philosophie qui m'ont, si j'ose dire, converti, je n'avais que mépris pour tout ce qui pouvait être spéculation pure et goût pour ce qui était la poésie, le théâtre, les belles lettres. Mais la philosophie est apparue, comme pour toute une génération, comme le lieu par excellence de la recherche de la vérité, et mieux encore de la prétention à l'avoir trouvée.
C'était Christian Jambé, philosophe, spécialiste de l'islam, au micro de Laure Adler dans Hors-Champ sur France Culture, c'était en 2016. Est-ce que ça vous parle, ce qu'il dit de son rapport à la spéculation, par exemple ?
Alors, d'abord, je suis très heureuse d'entendre la voix de Christian Jambé. Christian Jambé, ça a été donc mon professeur en CAGN. Sincèrement, moi j'avais eu un parcours avec les professeurs... C'est terrible de dire ça parce que c'est pas tout à fait juste, mais relativement pauvre. Bon, c'est comme ça. J'ai changé de lycée chaque année. Enfin bref, en tout cas, à un moment donné. Donc peut-être ceci explique cela. En tout cas, bon. Et puis arrive Christian Jambé, qui est autre chose, qui est d'abord un auteur, un grand philosophe et une érudition absolument splendide. Ça m'étonne pas qu'il parle de la poésie parce que il a cette herméneutique, cette fluidité de la poésie. Il a cette finesse de la poésie. Et donc ses cours ont été un lieu de confirmation très fort. Donc un lieu de confirmation très fort. J'avais déjà basculé dans la philosophie. Moi, j'avais basculé dans la philosophie assez tôt, sans vraiment, je vous l'ai dit, savoir que ça s'appelait la philosophie, mais en étant tellement décidé à écrire et à écrire des idées. Donc, si vous voulez, après, vous l'appelez comme vous voulez, mais bon, à un moment
c'est
donné...
C'est assez étonnant quand même de vouloir écrire des idées. On a envie d'écrire des histoires.
Ah, pas du tout. Non, j'étais incapable d'écrire des histoires. Je le suis toujours, d'ailleurs, à mon grand désarroi, parce que je mets la littérature sans doute plus haut que tout. Je mets la poésie plus haut que tout et j'aurais aimé avoir ce talent. Il s'avère que je n'ai pas ce talent. En tout cas, jusqu'à ce jour. Et c'est pas une tristesse, mais c'est quand même un chagrin. Parce que Hugo, parce que Dostoïevski, parce que, comment dire, je sais pas, Mallarmé, Proust, enfin, il y a même pas, je veux dire, il n'y a aucune comparaison, Musil, enfin, bref. Il s'avère que moi je n'avais pas j'ai fait ma thèse sur l'imagination, je n'avais pas cette imagination-là. J'en avais une autre, j'avais une imagination qui était celle de la création des concepts, et en revanche ça c'était assez clair, jeune, où j'avais une capacité synthétique, analytique aussi quand même un peu, mais synthétique, forte. Et donc ce chemin était fait. Et puis tout d'un coup arrive Jambé, et Jambé, c'est la délicatesse de pensée, c'est la finesse, c'est l'érudition, c'est l'analytique immense. Ça a été un immense bonheur. Et puis c'est quelqu'un qui attrapait, qui était capable autant de faire un cours sur Duns Scot, Avicenne, etc., Plotin, que Proust, un auteur de bande dessinée. Enfin voilà, il était. Et là aussi, pour moi, il avait cette, il a, bien évidemment, cette force, si vous voulez, de faire comprendre les concepts, de faire comprendre le style, l'écriture. Enfin, ça a été un moment important, oui. Très important.
Ça a été un grand professeur pour vous.
Un très grand professeur.
Est-ce que vous avez tout de suite voulu, donc, créer des concepts, ça, on l'a compris, mais enseigner aussi ces concepts,
pas du tout,
les
non,
transmettre?
Non, je suis bien.
Hélas, comme Christian Jambé.
Je suis connue comme le loup blanc par rapport à ça, puisque non seulement... Non, je ne voulais pas du tout enseigner.
Pourtant, maintenant, vous avez enseigné à l'école polytechnique, à l'école des mines, à l'IEP. Qu'est-ce qui ne vous plaisait pas dans le fait d'enseigner?
Ce qui ne me plaisait pas, c'est que ça me volait du temps pour écrire. Ce qui ne me plaisait pas, c'est que ça m'obligeait à interagir avec d'autres petits moi-même et que j'avais... un désir disparaissant. J'avais un désir totalement raté sur ce point-là, mais c'est vrai, j'avais un désir de disparition pour produire...
Dans la solitude.
Oui, pour produire un travail. Et j'aspirais à ça, je pensais que je serais chercheur. Quand j'ai soutenu ma thèse, j'ai expressément dit je ne désire pas enseigner, je ne veux pas enseigner. Ça a été un point qui m'a suivi toute ma vie parce que c'est écrit dans mon rapport que voilà, etc.
Et c'était mal vu?
Ah oui, c'est très très mal vu, oui, bien sûr. Oui, c'était très mal vu et en plus je le comprends aujourd'hui, si vous voulez. Aujourd'hui, j'aimerais ne pas enseigner. J'aimerais ne pas enseigner parce que ça prend beaucoup de moi. J'ai un respect immense pour l'enseignement, immense, et j'espère en tout cas être assez dure avec moi-même et exigeante avec moi-même pour produire un enseignement qualitatif. En tout cas, je le fais comme cela. Mais ça me coûte et c'est vrai que oui, j'aimerais arrêter, mais je n'ose pas arrêter parce que d'abord je crois qu'il y a une forme de dette tout simplement qui se joue là, il y a une forme de responsabilité, il y a une forme de dire oui tout de même il faut assumer cela. Et puis par ailleurs, je reconnais en revanche ce que je n'avais pas pressenti, que bien évidemment, heureusement, dans l'enseignement, on reçoit aussi beaucoup d'une autre façon.
Oui, l'œuvre peut être façonnée par l'échange avec ceux à qui on enseigne.
Donc, si vous voulez, heureusement d'ailleurs que dans cette obligation, puisqu'aujourd'hui je suis titulaire d'une chaire, vous l'avez dit, humanité et santé. Alors là, je dirais que la spécificité des professeurs titulaires d'une chaire, c'est que par rapport à d'autres professeurs, ils ont peut-être une capacité un peu plus libre de dessiner leurs enseignements. Donc résultat, la scission qui peut se faire entre une écriture, une recherche et un enseignement est moindre. Et c'est le cas, de fait, aujourd'hui. Donc c'est vrai que je vis l'enseignement aujourd'hui différemment que dans mes premières années où, il fallait enseigner ce qu'il fallait enseigner indépendamment de ce qui était, moi, ma recherche sur l'imaginatio vera. Voilà, c'était très compliqué d'avoir un cours sur l'imaginatio vera. Il fallait avoir un cours de philosophie politique, contemporaine, description du monde contemporain, etc. Et puis moi, en plus, avec ce fait que mon parcours a fait que la majeure partie de mes étudiantes n'étaient pas des philosophes. Donc ça aussi, c'est très particulier, si vous voulez. Vous êtes professeur de philosophie, mais en gros, vous n'enseignez pas à des philosophes. Vous enseignez à des Sciences Po, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Vous enseignez à des ingénieurs. Vous avez cité l'IX, mais aujourd'hui, moi, je suis professeur toujours, non pas à l'IX, j'ai arrêté l'IX, mais je suis professeur associé à l'École des Mines de Paris. Ce sont des ingénieurs qui sont en face de moi. Aux arts et métiers, ce sont des ingénieurs, en grande partie, qui sont aussi en face de moi. Aujourd'hui, à la chaire de philosophie à l'hôpital, ce sont des médecins. Donc, si vous voulez, et je trouve ça...
Vous n'avez jamais un public de philosophes?
Disons que je récupère plutôt les philosophes au moment du doctorat, quand j'ai des thésards. Et là, en revanche, pas intégralement, parce que j'ai beaucoup de deuxième thèses, c'est-à-dire des gens qui ont d'abord fait leur thèse en sciences, ou leur thèse de médecine, etc., ou en sciences de l'ingénierie, et qui font une deuxième thèse en philosophie avec moi. Hein, et c'est tout à fait passionnant. Hein, donc je suis très heureuse d'avoir ces élèves là parce que c'est très riche. Et j'ai un petit groupe comme ça quand même d'étudiants philo qui ont fait leur master ailleurs et qui viennent faire leur doctorat avec moi.
Cynthia Fleury, un philosophe a une question à vous poser.
Comment peut-on philosopher? Que peut-on faire? Est-ce que j'ai appris une façon de philosopher qui ne serait pas la simple lecture de grands livres et la simple imitation de ce qu'ont fait les autres?
C'était la voix d'Emmanuel Lévinas. Est-ce qu'on peut philosopher autrement que par la simple lecture de grands livres ou l'imitation de grands philosophes? J'ai l'impression que ça illustre d'une certaine manière votre parcours, Cynthia Fleury.
Oui, alors je pense qu'il y a, voilà, il y a deux gestes qui me semble important lorsqu'on dit faire de la philosophie. Et d'ailleurs, je pense que si vous prenez les définitions chez Deleuze, elles vont sensiblement dans ce sens-là. La première, c'est que vous vous inscrivez dans une histoire de la philosophie. Donc il y a toujours un travail historiographique où vous faites un état de l'art. Alors vous essayez de le rendre bien évidemment complet, mais pas toujours, parce que beaucoup de choses ont été dites. Mais voilà, déjà vous attrapez cet héritage, où vous faites l'héritier de pensées, de courants, de concepts, et donc vous renvoyez vers eux. Et si vous regardez Métaphysique de l'imagination, vous avez un appareil de notes, de 1000 notes. Ce qui est normal en plus au moment de la thèse.
Qui est dans vos premiers livres, hein,
oui,
qui est issu de votre thèse.
C'est un livre qui en fait est où je n'existe pas, ou qui est porté par
l'histoire de la philosophie.
Voilà, qui est porté en plus par pas que d'ailleurs que des philosophes, mais par Henri Corbin en devant, par Lévinas, par Derrida, par Ricoeur, enfin tous ceux. Voilà, et donc ça me paraît très important d'inscrire cette histoire-là, ce temps long. Et ce temps long qui, en plus, nous est tellement nécessaire pour vivre, pour penser. Et ce temps long qui est détruit tout de même, massacré même dans le monde d'aujourd'hui. Donc, cette réinscription dans le temps long, c'est ce fait de se mettre dans la mimétique des grands, ça fait partie, je pense, du geste. Et puis, ça ne suffit pas. Parce que si vous ne faisiez que ça, vous seriez un très très grand professeur de philosophie. Bon. Et donc, le deuxième point, c'est la création de concepts. C'est-à-dire le fait de soi-même tenter un rhizome, hein, une sortie, quelque chose, comme on peut, soit la récupération d'un concept qui est déjà existant, mais vous lui donnez une nouvelle facette, voilà, soit, pour le coup, ce que j'ai fait par exemple avec la notion d'imagination vera. L'imagination vera, c'est une notion qui est Paracelse, ça fait un petit peu de temps quand même. Donc, mais bien évidemment que la manière dont je définis l'imagination vera et la manière dont Paracelse, Corbin et quantité d'autres définissent l'imagination vera, non pas n'a strictement rien, ça se parle, mais c'est un chemin de plus. Pourquoi? Parce que je suis née dans l'état de droit, parce que je suis du 21e siècle, parce qu'en plus je suis une femme, parce que, enfin bref, tout arrive qui vient nourrir différemment ce concept-là. Et puis en revanche, vous pouvez faire alors vraiment de la création de concepts qui n'existaient pas, et ça va être par exemple la notion d'irremplaçabilité qui, telle quelle...
C'est le titre d'un de vos livres, voilà, paru en 2018, Les Irremplaçables.
Voilà, par exemple, peut être quelque chose qui, ben voilà, qui tire un petit peu.
Donc,
plus.
Donc, relecture d'une œuvre ou création d'une notion ou exploration d'une notion qui jusque-là n'avait pas été travaillée.
Voilà, alors après, c'est tellement, si vous voulez, moi, mon but, c'est pas nécessairement de faire surgir des notions qui n'ont pas été là, parce qu'en plus, si, pas du tout impossible qu'un jour je découvre que, ben non, la notion d'irremplaçabilité exactement comme je l'ai pensé, etc., existe ici, et hop, on refait lien avec cet endroit, tout en essayant de voir comment on peut densifier cette chair, entre guillemets, du concept, parce que ça, voilà. Donc, c'est ces deux points. Mais si vous voulez, ce lien avec les aînés, ce lien aussi avec les contemporains, il me paraît, oui, il me paraît absolument nécessaire. Et c'est vrai que on a pu me reprocher de dire mais vous passez votre vie à citer ma parole. Enfin, stop quoi. Et mais parce que moi je mêle mon écriture. Et puis aussi, c'est vrai que c'est tellement immense, ces auteurs. Alors là, peut-être que je suis professeur malgré moi, mais transmettre ça, pour moi, c'est extraordinaire. C'est fantastique. Et donc, de me dire que je peux, à un moment donné, rappeler aux uns et aux autres que ces grands textes sont des immenses alliés, je le pense, mais vraiment, de manière profonde, totalement sous-investi, alors que c'est une
des remèdes même.
Oui, c'est-à-dire c'est une puissance de symbolisation. La symbolisation, c'est quoi? C'est ce qui nous permet de tenir face à la finitude. Donc, si vous voulez, quand tout d'un coup on a appris à dialoguer avec ces textes, on résiste à la mort. Et je le pense profondément. Je l'ai vécu. Et je pense en revanche que le travail d'un professeur à un moment donné, c'est aussi de donner, voilà, de faciliter cet accès si cet accès n'est pas simple pour les uns et les autres.
Alors après Emmanuel Lévinas, une autre voix qui vous pose une question directement, nous l'avons eue au téléphone.
J'ai rencontré Cynthia Fleury dans un cadre purement amical et j'ai connu la femme avant de connaître l'œuvre. Je suis venu au livre par l'amitié que j'ai contractée pour le personnage. Et il se trouve que j'ai eu un accident très grave il y a maintenant 5 ans, et je me souviens que sur mon lit d'hôpital, j'ai lu Le Précium de Loris. Je dois dire que ce livre, qui m'expliquait qu'on pouvait se servir de l'adversité, du choc qu'on avait reçu, de la dégringolade, ça m'a passionné d'abord, et ça m'a aidé à me relever ensuite. Moi, je suis du côté de ce qui sépare les hommes, ce qui les singularise, ce qui les particularise, ce qui les différencie, ce qui parfois les éloigne. Et je sais qu'elle me parle souvent de son soin à considérer les sujets universels de l'homme. Alors moi, la question que je lui pose, c'est que pense-t-elle de ce poème de Novalis, le romantique allemand qui est très cher à mon cœur ? Nous cherchons partout l'absolu, mais nous ne trouvons que des choses. Moi, je suis du côté des choses, et je voudrais savoir comment Cynthia réussi à demeurer du côté de l'absolu.
C'était la voix de Sylvain Tesson, l'écrivain, qui vous pose cette question. Comment parvenez-vous à vous situer du côté de cet absolu?
Alors, je ne me situe pas du côté de l'absolu. Je suis, comme Sylvain, du côté des choses. Mais c'est vrai que, et Sylvain fait la même chose, hein, arrêtons, il fait ce pas de plus des choses vers, d'abord parce qu'il écrit, et que l'écriture, précisément, est une verticale elle-même par rapport à ces choses. Mais moi, je suis comme lui, c'est-à-dire que les choses, pour moi, ne sont pas antinomiques de l'universel. Les choses ne sont pas antinomiques de l'absolu. Pourquoi ? Parce que je crois, je vous l'ai dit une minute, je crois à la symbolisation. Je crois même que c'est le seul travail qui définit l'humanisme, l'humain. C'est-à-dire que l'humain attrape du vivant, attrape du temporaire, attrape de la mort, et il produit, comme dirait Proust, un peu de temps à l'état pur à partir de ça. Il détient cette raison de temps, comme ça, le temps de sa vie, et il la transmet par une œuvre, souvent, mais pas simplement par une œuvre, il peut la transmettre aussi par l'amour, par un enfant qui se souvient d'un parent, ou d'une parole. On le transmet par une musique, on le transmet par une demeure, une maison laissée. Je suis très sensible aux lieux et à la restauration des lieux anciens, par exemple. Donc tout ça, pour moi, c'est tout simplement une manière non de demeurer. Voilà, c'est pas très compliqué. Donc et la recherche de l'absolu est quelque chose en fait de très horizontal, si vous voulez. C'est une ou de très suspendu, mais ce n'est pas ce que l'on peut entendre derrière l'absolu, une forme de d'idéalisation maximaliste ou de radicalisation maximaliste, etc.
Mais la frontière que Sylvain Tesson trace en creuse, c'est la distinction aussi qu'il y a entre la littérature qui se situerait du côté de la singularité, quand la philosophie serait du côté des concepts abstraits et universels.
Bien sûr, mais Sylvain oublie, parce que il est plus proche de Novalis que d'Hegel, que c'est le même chemin et que la phénoménologie de l'esprit d'Hegel nous a enseigné que bien évidemment la question de la singularité est précisément une forme de réconciliation entre ce qu'on appelle l'universel et le particulier, et que voilà, et on sait tous ici que par l'infinitésimal et ne serait-ce que par la fiction d'un personnage, donc d'un particularisme maximal, on atteint une version de l'universel. Moi, je crois à l'universel, mais je crois à 1000 chemins vers l'universel, 2000 chemins, 3000 chemins vers l'universel. Mais en revanche, c'est vrai que cet universel, pour moi, il est porteur de paix, il est porteur d'exigence, il est porteur d'éthique, il est porteur, encore une fois, d'infini. C'est ce qui me permet, si vous voulez, de ne pas être de manière perpétuelle désenchanté. Voilà, chacun, parce que ma sensibilité se situe plutôt là, c'est-à-dire l'apaisement qui convient à ma sensibilité est un apaisement qui passe par ce truchement de l'universel. Sylvain, son apaisement, si tant est qu'il en est un, son apaisement passe par une agitation maximale, mais pas une agitation, le terme n'est pas beau, mais
un tourment,
non, une aventure, voilà le juste terme, une aventure, et cette aventure pouvant prendre toutes les modalités possibles. Je lus son dernier livre, La Panthère des Neiges, et dans La Panthère des Neiges, précisément, il apprend une nouvelle modalité de l'aventure, qui est l'affût, qui est la patience, qui est l'immobilité, mais c'est une aventure. Et lui, là, voilà. Mais bien évidemment qu'il va à l'universel. La Panthère des Neiges est un universel.
Vous employez des mots très forts, Cynthia Fleury, pour parler de l'universel ou de la philosophie, du pouvoir de la philosophie, faire face à la mort. Le témoignage de Sylvain Tesson par rapport à votre livre Precium Doloris, L'accident comme souci de soi, qui était paru en 2002, mais qu'il a préfacé dans une nouvelle édition parue il y a peu, font que la philosophie apparaît comme un remède, et on a souvent l'impression que dire que la philosophie nous aide et nous porte secours, c'est un petit peu un poncif, mais j'ai quand même l'impression que c'est ce qui ressort de vos propos.
Bah écoutez, c'est ce qui ressort, mais je ne l'ai pas. C'est vrai que je ne l'ai pas formalisé comme tel. Ça s'est dessiné au creux de ma vie.
Comme la forêt dont vous parliez, une
exactement,
forêt que vous sculptez au fur et à mesure.
Il s'avère que quand je suis entrée en philosophie, je n'avais pas du tout l'idée que ça produirait du soin. Mais je suis entrée en philosophie parce que il m'était impossible de tenir difficilement possible, de tenir dans ce monde sans en passer par là. Donc je suis entrée par la philosophie, par la porte de l'insuffisance, par la porte de l'incomplétude, par la porte du manque, si vous voulez.
Et il vous manquait de quoi?
Mais de tout. J'étais absolument pas adaptée. Et ce monde ne m'intéressait pas. Voilà. Donc, si vous voulez, il fallait bien trouver un chemin de réconciliation avec les humains, avec les autres, avec moi-même, avec tout. Donc, ce chemin, ça a été celui de la philosophie.
Et pourquoi d'ailleurs la philosophie? Parce que dès le début de l'émission, Cynthia Fleury, vous m'avez dit, j'ai eu envie de créer du concept. Mais c'est quelque chose qu'on entend très peu, c'est une vocation très peu courante. Pourquoi la philosophie vous a apparu peut-être comme le meilleur remède à cette incomplétude?
Mais parce que, si vous voulez, le concept c'est du chiffre. Donc les mathématiciens comprennent ça, c'est-à-dire c'est une équation matricielle. C'est une manière, précisément quand ça fuit de toutes parts, de calmer la fuite et d'attraper quelque chose. Et donc le concept, tout d'un coup, c'était des points d'appui dans ce monde chaotique, ridicule. Bon, donc je vais pas faire ma misanthrope ici, mais enfin je pense sincèrement que derrière tout bon humanisme, il y a un petit fond de misanthropie de base. Donc voilà, tout d'un coup, c'est vrai que la question de l'universel, quand j'ai fait ma thèse, j'ai choisi un territoire très particulier. J'ai choisi un territoire qui traitait de l'imagination créatrice, noétique. Et voyez comme c'est drôle la vie. Je ne savais pas que Jean Bay avait travaillé sur ces questions-là, car en cours, jamais Jean Bay n'avait bien évidemment évoqué son propre parcours d'auteur. Jamais. Très peu, très peu. En tout cas, il n'avait pas un bon. Mais et donc, j'ai découvert Jean Bay, en fait, en allant découvrir Henri Corbin, et tout d'un coup, je découvre que un des grands disciples d'Henri Corbin était mon professeur. Et que le bougre ne me l'avait pas dit, quoi. Pardonnez-moi cette expression. Le gaillard ne me l'avait pas dit. Et donc, je le vois, etc. Je découvre chez lui la bibliothèque iranienne, comment dire, qui avait été donnée notamment par Corbin. Bon, bref, quantité de choses. Et donc ça, c'est assez drôle. Et en l'occurrence, pour l'imagination, je suis arrivée sur ce territoire-là avec la volonté, si vous voulez, de démontrer que les concepts que j'allais rencontrer, notamment ceux du soufisme, notamment ceux des platoniciens de Perse, etc., ou plus tard ensuite des platoniciens de la Renaissance, ou plus tard encore des platoniciens de Cambridge, etc., que c'était des voies vers l'universel. Et ça a été, et c'est encore, ça a été une bagarre. Ça a été une bagarre parce que j'ai défendu, prenons un cas, la lumière mohammadienne, concept, comme un concept universel et non pas comme une catégorie de l'islam. Et je continue de le penser. Je continue, si vous voulez, de considérer qu'il y a quantité de concepts qui sont produits, bien évidemment, par des cultures endogènes, des civilisations, etc., mais qui sont des voies vers l'universel. Et je le défendrai jusqu'à la fin de mes jours. Et ça me parlait. Ça me parlait, c'est-à-dire de faire ce chemin-là me parlait. Alors j'aurais pu prendre un autre chemin qui était celui effectivement du particularisme et de dire, bah écoutez, je deviens islamologue, je deviens spécialiste. Je n'ai pas pris ce chemin-là, j'ai pris un chemin de précisément aller traquer dans ce concept-là qui paraît si éloigné, quelque chose qui fait que, bien évidemment, c'est en partage avec l'esprit de la Renaissance, c'est en partage avec, comment dire, même la poésie de Reverdy, puisque c'est un... ou d'André Dubouchet, si, puisque c'est des poètes qui sont très très présents dans Métaphysique.
Un autre de vos grands concepts est le courage, Cynthia Fleury.
Ce qu'il y a de vrai, c'est que les occasions du courage sont très fréquentes et que le courage n'est pas nécessairement physique et ne s'attache pas nécessairement à des situations exceptionnelles comme celle dans laquelle nous nous sommes trouvés entre 40 et 44, surtout les gens de la catégorie à laquelle j'appartiens. Les occasions du courage sont également extrêmement nombreuses. Au fond, le véritable courage, comme la véritable sincérité, implique toujours la référence à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ? Et les occasions du courage, elles naissent dès le moment où je suis obligé de répondre par oui ou non en engageant quelque chose, en compromettant quelque chose. Et ces occasions sont assez fréquentes depuis la guerre.
C'était la voix de Jean Kelevitch, c'est un auteur que vous connaissez particulièrement bien, Cynthia Fleury. Vous avez écrit ce livre en 2010, La fin du courage. Le courage, comme je l'ai dit, est un de vos grands concepts. Quel rôle a joué Jean Kelevitch dans la construction de ce livre et plus globalement de votre œuvre ?
Oh ben, il a été absolument déterminant. Alors Jean Kelevitch est immense, hein, et le courage est une petite partie, toute petite partie du Traité des Vertus notamment, mais toute l'œuvre de Jean Kelevitch est essentielle dans mon travail. Alors comment ça s'est fait ? Ça s'est fait pas par la rencontre de Jean Kelevitch. Je dirais que je connaissais bien sûr Jean Kelevitch, mais la question du courage n'est pas arrivée par là. Elle est arrivée par deux questions, deux ancrages. Un ancrage théorique qui était celui, vous avez cité mon travail sur les pathologies de la démocratie. Et dans les années 2000, il y avait un grand programme européens. On était au tout début des grands programmes universitaires, scientifiques, européens. Et ce programme s'appelait les pathologies du politique. Et moi, à cette époque, j'étais reliée à un centre de recherche sur la philosophie moderne au CNRS. Et donc, ce centre de recherche allait travailler sur ces pathologies du politique. Et immédiatement, moi, j'ai dit à cette époque à mon directeur de recherche, voilà, ça, je veux faire ça, je veux travailler sur cette question, mais pas les pathologies du politique, c'est trop vaste. Ce qui m'intéresse, c'est les pathologies de la démocratie. Et donc, l'entropie avec un E, notamment démocratique, et j'ai commencé à tisser comme ça. Résultat, quand j'ai fait ça, ça a fait un vrai tournant dans mon travail, parce que ça m'a, petit à petit, j'ai commencé à travailler avec d'autres catégories de gens, et notamment des médecins. Et notamment des gens qui travaillaient sur toute la psychodynamique du travail. Pourquoi ? Ben parce qu'un haut lieu de dysfonctionnement aujourd'hui du monde démocratique, c'est aussi le monde du travail. Donc petit à petit, comme ça, je travaillais en rencontrant la question du courage par le creux, c'est-à-dire par la question du découragement. Et donc, tout d'un coup, s'est télescopé à la fois ce terrain, et puis par ailleurs, moi-même, je devenais aussi psychanalyste. Donc s'est télescopé ce terrain clinicien du découragement, de l'expérience très une, individuelle de cet immense découragement qui s'inscrivait dans un vieil héritage du désenchantement type Weber, mais découragement, c'était pas le terme de désenchantement, c'était le terme de découragement, les mots ont un sens. Et de l'autre côté, comme j'avais travaillé sur la question de la régulation démocratique, j'avais travaillé sur ces régulations, entre guillemets, par la vertu, par la notion de l'intérêt, etc. Et je me suis dit, mais tiens, est-ce que le courage est un outil régulateur? Voilà, parce que cette question n'a pas été posée comme ça. Et donc, résultat, par l'ancrage de la théorie politique et par l'ancrage de la théorie psychanalytique, il y a eu une espèce de rassemblement comme ça autour de cette notion, et j'ai pu, voilà, lui donner une sorte de Janus bifronce et dire, bah tiens, le courage, moi je vais l'attraper dans cette bulle-là. Et c'est ce que j'ai fait, et j'ai tissé ensuite tout ce que j'ai appelé le ruban de Moebius, entre guillemets, entre l'individu individuation. Donc je suis retournée à ce vieux concept. L'individuation est un vieux concept.
Ce dont
vieux
que
concept.
Vous évoquez dans Les Irremplaçables.
Exactement. Donc pas l'individualisme, mais l'individuation, le processus de construction du sujet. D'autres diraient la subjectivation, etc. Un camarade et ami, Roland Gori, travaille énormément justement sur les processus de construction du sujet dans cette question. Donc moi, je suis plutôt allée sur la notion d'individuation et en même temps de montrer comment, quand on détruisait la santé psychique d'un individu par sa réification, là aussi, vieux terme, théorie critique, école de Francfort, Adorno, Lucas, etc. Donc la réification, on connaît cette chosification. Comment on mettait à mal non seulement l'individu, première étape, mais deuxième effet, qui se coule, l'état de droit. Exactement.
Quel est le lien entre, vous venez de nous dire, vous venez de nous tisser le lien, Cynthia Fleury, entre les pathologies de l'individu puis les pathologies de la démocratie. Vous avez parlé du soin. Est-ce que le soin vous apparaît aujourd'hui comme le fil conducteur, peut-être depuis le début de vos travaux? Alors, en partant de l'imagination, Mallarmé, évidemment l'accident, puis on l'a dit, les pathologies de la démocratie, le courage, les irremplaçables, jusqu'à cette année où vous avez fait paraître le soin est un humanisme. Est-ce que c'est le soin qui vous guide, les failles de l'individu, de la démocratie et la manière dont on peut reconstruire ces failles?
Alors, moi, je me suis jamais positionnée comme un philosophe du soin. Et c'est vrai que même quand je me présente pas comme un philosophe du soin. Je dis souvent, ben voilà, un philosophe qui enseigne.
Est-ce que vous vous présentez comme spécialiste de, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de philosophes qui se présentent comme spécialistes.
Non.
Je ne sais pas, moi, du cinéma ou d'autres choses.
Non, jamais. Mais je crois que ça serait assez malvenu. Donc non, je vais pas. Je pense avoir un certain talent de la synthèse. Mais il y a meilleur spécialiste que moi de quantité de sujets, si vous voulez. Mais en revanche, je me présente comme un professeur qui enseigne la philosophie politique et morale et qui est par ailleurs un analyste. Voilà, généralement, je dis, j'ai un terrain clinicien et j'ai un terrain...
Et les deux vont ensemble.
Et les deux vont totalement ensemble. Chez moi, en tout cas, ils sont absolument indissociables.
De quelle manière, justement, en fait, ce travail clinique de clinicienne avec le travail plus conceptuel?
Ils sont quand même très très liés, si vous voulez. D'abord parce que c'est pas neutre d'avoir créé une chaire de philosophie à l'hôpital et pas à l'université. Cette chaire de philosophie à l'hôpital, j'en ai eu l'idée simple, l'intuition et l'idée, il y a très longtemps, c'était en 93. Enfin, très longtemps, on se calme, mais enfin, en l'occurrence, dans ma petite vie, ça fait un petit peu de temps. Donc, 93, tout simplement parce que je vis une expérience particulière qui est vécue par beaucoup d'entre nous, qui est d'accompagner dans un accident gravissime entre la vie et la mort, un être cher, et donc il va falloir, comme on peut, être à ses côtés, sachant que c'est bien évidemment lui qui est aux premières manettes, mais que vous êtes quand même dans l'histoire, et ça va durer très longtemps. Et dans cette période-là, il va m'apparaître que bien évidemment, moi j'étais déjà en Cagne en l'occurrence, et je me suis dit, ben voilà, je sais qu'un jour j'aurai la possibilité de faire une chaire de philosophie, je la ferai ici. En l'occurrence, cet hôpital, c'était Garches, mais je la ferai ici dans un hôpital, parce que c'est flagrant que il y a un problème de contre-productif et il y a une déshumanisation qui n'a pas lieu d'être. Alors que, bien évidemment, il y avait non seulement des compétences, mais des merveilleux profils qui étaient là. Donc, bref. Donc ça, c'est un premier chemin et ça a donné lieu ensuite à un livre sur l'accident, qui est le livre de 2002, Precium Doloris, et qui ne raconte pas, mais enfin, qui est, pour ceux qui savent lire quand même un tout petit peu entre les lignes et qui savent lire surtout la préface, pas celle de Sylvain, mais la mienne. Bon, c'est assez flagrant que, je le dis, voilà, ma vie est entourée d'accidents, donc je connais assez bien cette question-là. Donc oui, c'était là sans le dire, si vous voulez, la question du soin à autrui. J'avais écrit juste avant sur Mallarmé et le deuil d'Anatole, donc de son fils Anatole. Voilà, j'ai écrit quantité de pages là-dessus. Donc, le soin aujourd'hui dans...
Et puis avec votre travail de clinicienne,
tout à fait.
Peut effectivement, on peut se demander si à certains moments vous recevez en tant que psychanalyste et là vous êtes clinicienne, et puis à d'autres moments vous êtes philosophe et là vous traitez du soin de manière théorique sans penser qu'il n'y ait pas pour autant d'effet très très palpable sur vos lecteurs, comme Sylvain Tesson par exemple. Est-ce que vous concevez ça comme deux activités bien distinctes?
Elles sont à la fois distinctes et en même temps, bien évidemment, que c'est plus poreux que ça. D'abord parce que les patients vous ramènent aussi à la vérité des choses. C'est-à-dire que moi, j'ai quantité de patients qui arrivent chez moi en disant, écoutez, je viens ici parce que, bien sûr, c'est vous, mais vous, c'est quoi? C'est pas tout à fait un analyste comme un autre. C'est un analyste qui est aussi un philosophe. Et je pense que d'autres analystes philosophes ont ce même retour, c'est-à-dire bien évidemment que ma clinique, elle est emprise et éprise des concepts philosophiques, tout autant que des concepts analytiques. Je dis souvent, je suis un philosophe clinicien quand même. C'est sans doute ce qui est plus juste, même si je connais heureusement ma théorie également psychanalytique. Mais c'est vrai qu'on ne se refait pas. On arrive avec son échafaudage et puis sa matière, comme on disait tout à l'heure. Donc c'est quand même pour eux, même si, par ailleurs, c'est divisé et que le travail conceptuel que je m'impose en philosophie, la montée comme ça en généralité, je vais peut-être pas me l'imposer de la même manière en clinique.
Est-ce que vous pensez qu'on peut soigner un sujet, un individu, comme on va soigner la démocratie en parlant par exemple d'écologie, en évoquant aussi les failles de l'individualisme dans la démocratie?
Si vous voulez, on soigne, c'est très compliqué de soigner un individu, mais d'abord parce que, voilà, on va dire on soigne, et on sépare la notion de soigner et de guérir, hein, donc c'est pas nécessairement la même chose, même si là aussi c'est poreux, mais c'est vrai que quand on arrive en analyse, on arrive avec des symptômes et une sorte d'incurable un peu particulier. Donc, vous faites disparaître les symptômes, parfois vous déplacez les symptômes, parfois vous en faites surgir d'autres, et puis il y a tout de même un symptôme que on ne fait pas disparaître et qui s'appelle la mort, et voilà, donc on est tous de toute façon confrontés à cette question-là. Donc comment on soigne, voilà, en accompagnant un sujet dans, moi je le dis souvent, c'est une définition un peu simple qui renvoie à Nussbaum, qui renvoie à Amartya Sen, qui renvoie à quantité d'auteurs qui ont produit ces notions capacitaires, de capabilities, c'est-à-dire comment le soin rend capacitaire un individu. Voilà, c'est simplement ça. Donc c'est très très ouvert en fait. Je cite toujours cette définition de Winnicott parce que elle m'inspire et comme par hasard elle fait lien aussi avec un territoire qui est le mien, à savoir l'imagination créatrice, l'imagination agente, l'imagination qui est pilier de l'entendement. C'est la phrase de Winnicott qui dit, voilà, le soin, là, ce qu'il appelle, lui, la préoccupation primordiale de la mère, et moi je ne mettrai pas ça sur, bien sûr, la mère, j'ouvrirai à la question tout simplement parentale ou à la question de la filiation de la volonté, même, c'est il dit, voilà, c'est le soin, c'est l'élaboration imaginative de la mère. Voilà ce que c'est que le soin. C'est-à-dire que c'est aussi ça. C'est-à-dire, bien évidemment, un soin des gestes, etc. Mais au début de ça, c'est tout l'univers imaginatif de la mère au sens où elle crée l'horizon d'accueil à la fois conceptuel. Elle donne la possibilité à l'enfant de se dire « Mon Dieu, ce monde attend quelque chose de moi et moi, je peux attendre quelque chose de ce monde-là. » Et bien évidemment que ça, c'est dans la tête.
Okaenasai.
Ah. Meori.
Nani?
Omae, oyomi ni ikanai ka?
Doushite sonna koto kangae tsuita no?
Doushite tte iroiro ne. Ma, kochi oide.
Chotto matte. Mou sugu dakara.
C'était un extrait, Cynthia Fleury, du Goût du Saké de Ozu, le film de 1962. Vous nous avez suggéré cet extrait, ce film, n'importe quel extrait, vous avez dit d'ailleurs, dans ce film, tout m'intéresse.
Oh ben, c'est un de mes films préférés, donc c'est comme ça, c'est plus simple. Ozu est un de mes metteurs en scène préférés. Et le Goût du Saké, bon bah c'est absolument splendide de revirement. Tout de même, de tentative d'apprentissage quand on est un vieil homme et qu'on finit par tenter de ne pas sacrifier son objet le plus cher, mais c'est un objet précisément, donc et d'accepter peut-être que cet objet soit un sujet, en l'occurrence sa fille. Enfin, il y a quantité de questions. C'est sur la piété filiale aussi, qui est pour moi une notion qui me parle beaucoup, tout de même, aussi.
Puis on retrouve ce que vous disiez sur l'imagination aussi du lien, cette citation de Winnicott. Alors, elle parle de la mère, mais effectivement, il est question là de la parentalité, de la filiation imaginée.
Tout à fait. Et de comment, à un moment donné, vous savez que c'est un même mot, hein, le parent et la séparation, c'est un même chemin. C'est-à-dire que c'est sans doute le travail du parent de produire, ou en tout cas pas de produire, parce que je ne sais pas si on produit la séparation, mais en tout cas de ne pas empêcher la séparation, même si cette séparation, elle est celle de l'enfant, et que elle non plus ne veut pas se séparer. Et que grandir, c'est accepter à un moment donné aussi de se séparer. Enfin, il y a quantité de sujets que je trouve grandioses, et puis indépendamment de ça, il y a une esthétique magnifique, on l'entend, il y a une musicalité, il y a une... c'est une peinture, c'est une espèce d'aquarelle, quoi. Avec en plus un jeu de couleurs très très beau. Enfin bon, moi je suis, c'est vrai que c'est un de mes films préférés. Longtemps, quand j'étais enfant, moi je suis arrivée à la littérature assez tardivement, assez tôt pour certains, mais en fait très tardivement pour les critères familiaux, c'est-à-dire vers 10-11 ans. Et oui, j'étais
très en retard.
Oui, c'était vraiment une catastrophe pour l'intégralité de la famille. Bon, il n'empêche que, heureusement pour moi, à 10-11 ans, quand je suis arrivée, boum, je suis passée ensuite devant tout le monde. Mais j'ai été construite par le cinéma, quand même. J'ai été éduquée par la cinéphilie et Ouzu a été, on va dire, peut-être un des premiers grands philosophes pour moi.
Cynthia Fleury, vous avez parlé de musicalité, vous avez parlé de séparation. Il est temps de nous séparer aussi avec de la musique dans un tout autre genre. ACDC, Thunderstruck, vous pouvez nous expliquer ce choix, Cynthia Fleury, après Ozu, on est dans une toute autre ambiance.
Je sais pas, ça mérite une explication, c'est tellement flagrant.
Mais on peut se contenter de l'écouter.
Non, mais voilà, bon, si vous voulez, donc c'est effectivement un de mes groupes préférés, et ce morceau archi connu, pardon pour le peu d'originalité, mais
ah si, c'est assez original. Il y a peu de philosophes le vendredi qui nous proposent ACDC.
Pardon. Bon, mais en l'occurrence cette introduction est extraordinaire. On a parlé tout à l'heure de la trompette, moi un deuxième grand on l'entend quand même derrière là, un deuxième instrument préféré, c'est la batterie. Et donc voilà, c'est ça, c'est le cri, c'est, il faut voir la salle. Moi, je suis pas une grande fana bien évidemment des foules, c'est quelque chose où je me tiens à distance, mais dans certains moments, c'est vrai que bon, c'est assez magnifique, et puis ce souffle qui arrive, cette espèce de puissance et cette voix absolument à la fois totalement ridicule. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette voix qui sort des entrailles et qui en même temps est absolument géniale. Parce que c'est de la création. Alors voilà, de la création de concept, si vous voulez. C'est-à-dire que normalement rien n'est là pour faire un truc beau, quoi. Et en fait, c'est, enfin moi je trouve ça magnifique et porteur, et on retombe sur la question du souffle qui nous a, comment dire, avec laquelle nous avons inauguré cette émission.
Merci beaucoup, Cynthia Fleury. On se quitte donc sur ACDC. Créateur de concept. Votre dernier texte, Le soin est un humanisme, est paru aux éditions Gallimard dans l'excellente collection Tract. Merci beaucoup.